Cédric Carotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur territorial de l'Association des paralysés de France dans les Alpes du Sud. Question assez générale pour commencer, mais si vous deviez donner une note au baromètre du traitement du handicap en France, ce serait laquelle actuellement ?
C'est une question difficile. Je mettrais un 7.
Ça veut dire que c'est bien, mais ça peut aller mieux.
Mais, alors, pour être très honnête, moi j'ai le sentiment, pour travailler depuis très longtemps à la PEF, que les choses ont évolué, mais il reste énormément à faire. Alors, quand je dis 7, c'était pour marquer l'évolution et les intentions, mais effectivement, il reste beaucoup à faire. Ouais.
Quelles intentions sont notamment louables pour vous aujourd'hui ?
Alors, si on reprend la loi de 2005, par exemple, et les agendas d'accessibilité, programmée où on accompagne les établissements recevant du public à engager des travaux avec un résultat pas au bout de 10 ans, mais chaque année on doit pointer et montrer ce qu'on a pu faire en termes d'accessibilité, par exemple.
Alors actuellement, les fauteuils roulants sont un peu dans la tourmente du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors je vais m'expliquer, c'est l'article 28 qui pose actuellement problème, qui suscite la polémique. Pourquoi ? Parce qu'il prévoit tout d'abord d'effectuer un référencement des fauteuils remboursés, une procédure qui retiendrait en fait certains modèles et permettrait leur remboursement. Quant aux autres, ce serait à la charge de la personne. C'est une économie de 30 millions d'euros qui est annoncée par le gouvernement. Quel est le problème à avoir une sorte de catalogue de fauteuils roulants qui soit référencé comme remboursable ?
Alors, parce qu'il y a autant de matériel, j'allais dire, que de personnes en situation de handicap. Par exemple, on peut avoir des personnes qui ont des difficultés motrices au niveau des membres inférieurs, mais peu de force au niveau des membres et peu de force au niveau des membres supérieurs. Et il y a plein de... ils n'ont pas forcément besoin d'un fauteuil électrique, ça peut être une assistance comme il existe sur certains fauteuils manuels, etc., etc. Donc c'est toujours très très compliqué de définir le bon matériel pour la bonne personne. Après, il y a des professionnels pour ça, je pense aux ergothérapeutes. Après, on va pas non plus se cacher. Moi, j'ai le sentiment que certains revendeurs, depuis quelques années, ont découvert aussi qu'on pouvait faire de l'argent sur le dos des personnes handicapées ou particulièrement du contribuable, puisque on accompagne le remboursement de ce matériel qui est une nécessité.
Donc finalement, l'intention du gouvernement n'est pas mauvaise sur le fond ?
Elle ne sera pas mauvaise si à mon sens, le panel est suffisamment large, parce que j'insiste, vous pouvez prendre 10 personnes en situation de handicap, le matériel dont ils ont besoin est souvent différent.
Oui, vous craignez tout simplement qu'une personne qui a besoin vraiment d'un fauteuil roulant adapté ne le trouve pas dans ce catalogue de référencement.
Et exactement. Et après, voilà, une personne qui vit avec l'allocation adulte handicapé qui est en dessous du seuil de pauvreté, elle n'a pas les moyens de se le financer. Après, faut pas non plus, faut se dire la vérité, hein. Il y a différents types de, c'est comme les voitures. Il y a des Ferrari et il y a des deux chevaux, quoi. Donc, faut que la qualité soit là quand même dans le matériel dont ont besoin les personnes.
Continuons d'ailleurs dans la métaphore du véhicule, il y a aussi des véhicules de seconde main et c'est un peu là-dessus que le gouvernement souhaiterait aller aujourd'hui. Il voudrait favoriser l'acquisition de produits, on va dire, d'occasion dans les fauteuils roulants en annonçant aussi 10 millions d'euros d'économies et tout cela pour éviter aussi un certain gâchis.
Alors moi je suis convaincu que sur du matériel, alors j'aime pas le mot de recycler, vous avez utilisé le mot de seconde main, moi, je vous suis là-dessus. C'est-à-dire que nous, à PEF France Handicap, il nous est arrivé qu'on nous donne du matériel neuf, parce que la personne est décédée, parce que son handicap a évolué et il peut falloir un peu de temps pour avoir obtenir un matériel ou le financement d'un matériel. Mais par exemple, dans le cas d'une sclérose en plaques ou d'autres types de maladies, le handicap est évolué et si ça arrive trop tard, et ben le matériel quand il arrive, il est plus il répond plus aux besoins de la personne. Excusez-moi. C'est juste inadmissible que ce matériel ne revienne pas en circulation. Alors effectivement, on va peut-être pas le rembourser deux fois, on peut peut-être le donner, on peut peut-être le prêter, on peut... voilà. Après, est-ce que c'est l'intérêt des revendeurs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis d'accord et je pense qu'il y a effectivement une économie à faire et je pense que l'économie sociale et solidaire doit s'emparer de cela.
Donc ça ne vous pose pas forcément problème, en tout cas.
Ah,
vous,
pas, hein, du tout. Mmh. Pas du tout. Vraiment, j'insiste, nous, on nous a donné du matériel neuf. Mmh. Mais ça nous arrive régulièrement. Donc, est-ce que c'est choquant de dire qu'on remet en circulation un matériel en bon état ou neuf?
Est-ce que, Cédric Carotte, le milieu du handicap fait partie de ces domaines en France, voire de ces totems qu'on ne peut toucher pour réaliser des économies?
Je pense que ce serait une erreur. Je pense que ce serait une erreur. On vient de parler de gaspillage comme partout, et qu'il y a des choses peut-être à faire. Après, quand on parle d'économie, il faut bien qu'on soit d'accord de quoi on parle. Je m'explique. Si on touche, par exemple, aux ressources des personnes handicapées, j'insiste, qui vivent encore au-dessous du seuil de pauvreté, c'est juste inadmissible. Par contre, remettre en circulation du matériel médical neuf, par exemple, ou en quoi c'est choquant, en tout cas, moi, je trouve ça pas choquant. Et je m'engage, moi, en disant ça.
Vous venez de parler justement du handicap et de la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive dans les Alpes du Sud à avoir une estimation du nombre, ou en tout cas du taux de personnes handicapées qui vivent sous le seuil de pauvreté?
Non. Alors, en fait, ce qui est très compliqué sur les chiffres du handicap, c'est que on n'a pas une source, mais on a plein de sources. Mmh. Ce qu'on peut juste dire, c'est que aujourd'hui, une personne qui vit avec l'allocation adulte handicapé vit en dessous du seuil de pauvreté.
Malgré le fait qu'elle ait été réévaluée.
Oui, malgré le fait qu'elle ait été réévaluée. Ce mois-ci, début novembre de mémoire.
Oui. 2005, Cédric Carotte, on prévoyait une accessibilité totale en 2015 en France. 2019, vous lancez deux opérations. Tout d'abord, une enquête IFOP, votre ville est-elle facile au quotidien? Puis une opération testing accessibilité dans les Alpes du Sud. Est-ce qu'on peut tout d'abord expliquer cette dernière opération?
Oui, alors l'idée c'est simple. Alors je vais pas rentrer dans le détail technique de la loi, mais voilà. En fait, en 2014, au vu de l'échec de la loi de 2005, a été proposé aux établissements recevant du public soit de faire ce qu'on appelait des agendas d'accessibilité, c'est-à-dire de se conformer à la loi en termes d'accessibilité sur 3, 6 ou 12 ans en fonction du type d'établissement, j'insiste, je rentre pas dans le détail, soit de faire une attestation sur l'ONA pour dire non, moi je suis accessible, j'ai pas besoin de faire ces travaux-là. Nous, ce qu'on constate, mais pour le moment c'est plutôt du ressenti, c'est que certains ont fait des attestations sur l'ONA, mais dans la réalité, elles ne sont pas accessibles. Donc à un moment, vu qu'on est sur du ressenti, on se dit juste, on va aller vérifier, on va aller voir, ces listes sont publiques, normalement on les trouve sur le site des préfectures. Je vous avoue que c'est très difficile, pour vous dire impossible, de le trouver sur le site de la préfecture du 05, mais la préfecture a quand même bien voulu nous donner cette liste, qui est publique, et l'idée c'est qu'on va, alors pas attaquer, c'est très important pour nous, on va pas attaquer tel bar ou tel restaurant ou tel coiffeur, c'est pas du tout l'intérêt. L'idée c'est de confronter la réalité de l'accessibilité à ceux qui ont dit « moi, je suis accessible ». Donc, on veut juste sortir des chiffres, de dire « voilà, il y a tant de... » Un chiffre qui revient souvent, par exemple, tant de kinés qui disent être accessibles, qui ont fait cette déclaration et qui ne le sont pas ou qui le sont que partiellement. L'idée, c'est vraiment confronter la réalité à la déclaration sur l'honneur.
Les élections municipales approchent. Est-ce que c'est une échéance à ne pas louper pour les associations dans le domaine du handicap, ou est-ce que l'échelon est trop local pour finalement peser dans le débat?
Ah non, alors pour moi il y a pas d'échelon qui n'est pas nécessaire. J'adore votre question, hein, je suis désolé, et elle me touche personnellement. Non, mais c'est vrai, l'échelon local est majeur, parce qu'on parle du quotidien de la personne handicapée. Je veux juste vous donner un exemple. On a un combat en ce moment, une action militante sur le 04, où simplement une personne, du moins un conseil municipal, a plusieurs salles sur sa petite commune de 650 habitants. On parle vraiment d'une petite commune. Hein. Le bureau des élections, quatre volets de 5 marches pour accéder aux élections, lorsqu'il y a une salle accessible qui permettrait à tous de pouvoir voter. Et quand je dis bien à tous, je parle aux personnes âgées, je pense à une dame qui attendrait un heureux événement et qui serait dans les derniers jours de la grossesse, je pense à une personne handicapée. Et là, non, vu que depuis 40 ans on fait les élections dans cette salle, parce qu'elle est très belle, on change pas le... Pourtant, ils ont fait des travaux, ils ont mis la salle polyvalente accessible. Pourquoi on ne permet pas l'accessibilité à tous? Et on parle de l'élection, qui pour moi est un droit et un devoir.
Dernier point, dernière question. Au niveau de l'emploi, cette action qui est mise en place dans les Alpes d'Haute-Provence, un groupe de pairs émulation, alors pairs PAIRE. C'est-à-dire, comment ça va fonctionner?
L'idée est simple, c'est de se dire qu'il y a plein de choses qui existent sur l'emploi. Les gens ne sont pas forcément informés. Certains ont des bons plans, certains n'ont pas. Et l'idée, c'est de réunir simplement les demandeurs d'emploi en situation de handicap pour réfléchir ensemble, pour qu'ils réfléchissent ensemble sur ce qu'ils veulent réfléchir. Alors, ça peut être juste boire un café et se plaindre de la difficulté de trouver un job, ou ça peut être se dire, vous avez vu, il y a telle annonce qui passe à tel endroit, ou ça peut être se dire, tiens, est-ce que tu peux regarder mon CV avec Pôle emploi, etc. On a fait ça, qu'est-ce que tu penses ? L'idée, c'est de se dire que on peut peut-être se soutenir entre personnes en situation de handicap recherchant, c'est pas le bon mot, mais demandeurs d'emploi.
Merci beaucoup Cédric Carreau d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Vous êtes le directeur territorial de l'Association des paralysés de France dans les Alpes du Sud. Merci.
Merci beaucoup à vous.